Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et merci d'être toujours fidèle à Métropolez-vous. Bienvenue à tous ceux qui découvrent cette émission avec un nouveau numéro consacré à la découverte des communes de Toulouse Métropole. Nous poursuivons le cycle entamé en septembre dernier qui nous a permis de mieux faire connaissance avec l'histoire, le patrimoine et le territoire de Blagnac, Florins, Mons, Balma, Pibrac et tout récemment de Saint-Alban. Nous avons ainsi pu quadriller l'espace métropolitain entre ses parties est, ouest et nord qui présentent des visages différents et qui ont pu être marqués par une histoire, des personnages qui leur sont bien propres. Aujourd'hui, nous allons revenir à l'est de la métropole, sur ces terres aux confins du Tarn et du Lauragais, en faisant étape à Quinfonsgrive, une commune au nom composé, ce qui donne déjà une première indication sur ce qu'a pu être son histoire. C'est pour en savoir plus sur celle-ci que ce numéro est entièrement consacré à l'histoire et au patrimoine de Quinfonsgrive. Et comme dans d'autres communes, l'histoire et le patrimoine de Quinfonsgrive font l'objet de recherches, de publications et d'actions pour les faire connaître et les mettre en valeur. C'est le travail que réalise l'association Les Amis de Quinte et j'ai le plaisir de recevoir son président, Jean-François Gajewski. Merci beaucoup monsieur d'avoir répondu à l'invitation de Métropolez-vous. Bienvenue à vous aussi. Alors je vais bien sûr vous demander de nous présenter l'association que vous présidez et entre autres ses travaux, ses activités et les actions qu'elle mène ou à mener sur sa commune.
Eh bien, tout d'abord, merci de me donner la parole. C'est une association fondée en 1991, s'opposant à un projet d'un certain promoteur. Et après avoir gagné notre action, s'est posé la question du futur. Et nous avons donc décidé de maintenir cette association avec une vocation, on va dire, orientée vers la convivialité, vers la qualité de vie. Et la culture faisant partie de la qualité de vie, nous avons également décidé d'inscrire à notre objectif la recherche ou toute recherche concernant le patrimoine de notre secteur rural de Quin, puisque notre domaine, je dirais, de prédilection, c'est le secteur rural de Quin.
Voilà, donc ça a été d'abord cette partie-là que vous avez explorée, si on peut dire. Oui. Et puis je suppose qu'après... En faisant des recherches, il y a d'autres choses qui ont suscité votre intérêt et que vous avez approfondi vos recherches dans d'autres domaines.
Oui, effectivement. Donc, nous participons à la vie, je dirais, de la commune, puisque nous participons aux enquêtes publiques. Nous avons récemment mené des actions en faveur des transports en commun. L'objet également de cette association, c'est de faire se rencontrer les gens. Le secteur rural de Quin est un secteur résidentiel et avec la vie moderne, les gens ont des difficultés à se rencontrer, ce qui est assez curieux puisqu'on a énormément de moyens de communication aujourd'hui. Et donc, un repas par an, des réunions, des thèmes particuliers répondent à l'objet de l'association.
Et vous œuvrez à la création du lien social dans la commune, comme on dit de nos jours.
Modestement.
Modestement, à votre niveau.
Mais concrètement.
Mais aussi en suscitant, évidemment, l'intérêt des habitants pour l'histoire et le patrimoine. Et quand je dis patrimoine, c'est aussi bien du patrimoine bâti que du patrimoine naturel, bien entendu. Les espaces naturels, parce qu'il en existe sur cette commune. C'est une des communes, entre guillemets, rurales de la périphérie toulousaine.
Exactement, oui. En fait, la commune, qui est toute petite, 750 hectares, je crois que c'est la deuxième commune de Haute-Garonne en superficie. Une partie est dédiée à l'urbanisation, et effectivement à forte densité, et l'autre partie est dédiée à des activités agricoles qui subsistent encore aujourd'hui.
Qui sont préservées encore.
Pour à peu près 50% de la superficie.
Oui, ce qui est quand même encore important. Eh bien voilà, merci pour cette présentation très précise des activités et réalisations de l'association Les Amis de Quinte. D'ailleurs, on doit dire Quin ou Quinte ?
Personnellement, je dis Quinte.
Oui, comme on dit dans la région.
Voilà, comme on dit dans la région.
On entrera dans le détail avec vous tout à l'heure, puisque nous allons maintenant nous intéresser aux dernières nouvelles et à l'actualité de la métropole toulousaine avec Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. « Une nouvelle qui ravira les usagers du métro pour commencer ce flash, la ligne A version XXL est fonctionnelle depuis vendredi dernier.
Effectivement Eric, elle devait être mise en service initialement le mercredi 8 janvier, une inauguration qui avait été retardée suite à un incident rarissime le lundi précédent sur un transformateur empêchant de lancer cette version agrandie du métro. Les rames ont depuis été doublées, les quais et les stations agrandies pour accueillir ces rames de 52 mètres. Elles peuvent embarquer deux fois plus de passagers et absorber la hausse du trafic prévue sur cette ligne. 400 000 voyageurs sont attendus en moyenne par jour.
Et la deuxième information concerne les énergies renouvelables. Avec l'aide du cadastre solaire, vous pouvez découvrir s'il vous est possible de produire votre propre électricité verte. Qu'est-ce qu'on appelle le cadastre solaire, Corinne ?
Alors Eric, ce cadastre solaire est un service gratuit dédié aux habitants, entreprises et collectivités de la métropole qui se doit de simplifier l'accès au solaire. Cette plateforme web concrètement indique si une installation photovoltaïque ou thermique est possible et rentable chez vous. Chaque habitant peut tester grâce à ce service numérique le potentiel solaire de sa toiture et savoir si son bâtiment est éligible à une installation solaire rentable. Cette plateforme permet aussi de calculer votre future production d'énergie solaire, les économies réalisables sur vos factures d'électricité et le coût d'une installation adaptée à votre toiture. Ce simulateur évalue le rendement d'une installation en fonction de votre localisation. Il prend en compte le niveau d'ensoleillement, l'orientation, le type de panneau ou encore la température moyenne pour simuler votre production, estimer sa puissance et la quantité de dioxyde de carbone économisé. Direction donc le site internet toulouse-métropole.insonwetrust.solar.
Une information culturelle pour finir, du 18 au 26 janvier, une nouvelle édition du Festival du Livre de Jeunesse Occitanie a lieu à Saint-Orens-de-Gameville.
Oui, cette 18e édition met en lumière les livres pour enfants qui parlent de la pluralité de nos sociétés et de nos cultures. Le thème cette année du festival, Raconte-moi ton histoire. Vous pourrez découvrir des auteurs et illustrateurs à travers des expositions, des lectures, des spectacles, des ateliers d'illustration, des ateliers d'écriture, des rencontres en librairie à Saint-Orens-de-Gameville, mais aussi dans les communes de Toulouse Métropole, au sein des médiathèques ou encore de la Cité de l'Espace, l'Envol des Pionniers, le Musée de Toulouse, le Quai des Savoirs ou encore la CAF Poésie. Tous se mettent à l'heure du festival avec des expositions et des rencontres en librairie. Deux maisons d'édition sont mises à l'honneur, La Joie de Lire et Le Port à Jauny, maison d'édition spécialisée dans les livres de jeunesse et de poésie bilingue français-arabe.
Voilà, c'était le flash d'information métropolitaine de la semaine de Corinne Saint-Félix. Et peut-être Jean-François Gajewski, une réaction. Je crois qu'il y a une information de ce flash que vous souhaitiez commenter.
Oui, si vous me le permettez, le cadastre solaire. Alors, nous aurons l'occasion de l'évoquer. Nous avons des archives à Quinfonce-Grive basées sur le compois, donc le cadastre, établi sous le règne du roi soleil, donc cadran solaire. Et j'en profite pour saluer toute initiative qui va dans le sens d'améliorer, on va dire, la gestion de la planète et en particulier l'énergie électrique à partir des photons du soleil.
Voilà, bah, il semble que ce soit une piste en tout cas qui va être sérieusement explorée dans les années à venir dans la métropole toulousaine et je suis bien d'accord avec vous, c'est tant mieux. Et merci d'avoir bien voulu partager cette réaction avec nos auditeurs après l'actualité métropolitaine, retour à l'histoire. De la plus ancienne à la plus récente, nous revenons au thème principal de cette émission, l'histoire et le patrimoine de Quinfonce-Grive.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, la suite avec l'invité de ce numéro, Jean-François Gajewski, président de l'association Les Amis de Quinte. Les fidèles de cette émission savent que j'aime demander d'abord à mes invités quelle est l'origine du nom de leur commune, son étymologie. Sauf que là, il va falloir qu'on le fasse en deux temps et donner une explication pour Quinte et une autre pour Foncegrive. Alors Quinte, évidemment, ce qu'on entend derrière ce nom, c'est le chiffre 5. En tout cas, le cinquième d'une lignée, comme pu l'être le roi Charles Quint. Est-ce que c'est la bonne piste ?
Alors je dirais que vous avez certainement raison. Certainement, parce que tout ça n'est pas avéré. Mais vraisemblablement, Quinte vient de Quintus, qui signifie 5 donc en latin, et qui signifierait, je dis bien qui signifierait, la cinquième borne milliaire à partir de Toulouse. Alors une borne milliaire, à ne pas confondre avec la borne militaire, est une unité romaine de 1841 mètres, je crois, et qui placerait Quinte à 7,5 km de Toulouse, ce qui est tout à fait plausible. Cela étant, pas de traces de borne milière à Fonsgrive. Il est vrai qu'il n'y a pas de voie romaine avérée qui passerait par Quinte. En revanche, la Via Dominici, donc la route de Toulouse à Narbonne, je signale à vos auditeurs qu'il existe une borne milière à Bazièges, dans l'église de Bazièges, et donc c'est extrêmement intéressant de voir ce vestige. Ça, c'est pour Quinte.
Alors voilà, Fonsgrive.
Alors Fonsgrive, puisqu'il me faut effectivement présenter les deux. Donc, il faut savoir que, historiquement, le consulat de Quint, tel qu'il est répertorié dans le cadastre, 1600 et quelques, ne mentionne que Quinte, Fonsgrive étant un lieu-dit, un petit lieu-dit. Bon, c'est une commune rurale à l'époque, bien entendu. Et l'origine de Fonsgrive, du lieu-dit Fonsgrive, serait à rechercher dans les fontaines, fontaines sacrées. Donc, il existe des fontaines, Fontpère, Fontgrande, Fonsgrive, qui serait la fontaine, une fontaine sacrée. Donc il y a effectivement la rue des Sources qui est à Fonsgrive. Et donc certainement, sa signification serait celle-là. Donc pendant très longtemps, c'est la commune de Quinte qui a prévalu, on va dire jusque dans les années 1900. Mais le lieu-dit de Fonsgrive étant sur la voie de passage, je dirais, de Toulouse à Caraman et de Toulouse à Arvel, l'activité économique s'est développée sur cette voie-là. Et progressivement, Fonsgrive a pris de plus en plus d'importance. Jusqu'à, effectivement, entraîner une confusion dans l'esprit des gens, des Toulousains, entre Quinte et Fonsgrive. Ah, vous habitez à Quinte, c'est pas Fonsgrive. Bon, c'est la même commune. Et il faut savoir qu'administrativement, Quinte, la commune de Quinte, a existé jusque dans les années 90, année pour laquelle le maire Bernard Solera a demandé, à apporter une clarté, et puis à tenir compte de l'évolution, d'appeler la commune désormais Quinte-Fonsgrive.
Voilà, ben comme ça, ça sera plus clair pour beaucoup de gens. Alors, il y a une question que je me posais, quand on dit fontaine sacrée, c'était sacré pour qui ?
Alors, il y a des vestiges gallo-romains qui ont été retrouvés à Quint, autour de l'église de Quint, découverts principalement par l'abbé Bacrabert, dont nous aurons certainement l'occasion reparler, donc archéologue, des poteries. Il a également été trouvé une hache polie, vraisemblablement en provenance du néolithique. Donc, présence avérée de personnes dans le secteur, à Quinte. Il est vrai que le secteur est un peu privilégié. Collines, donc des cours d'eau, des sources. Donc, tout ça était propice, bien entendu.
À l'installation de communautés humaines. Ouais.
Voilà. Alors, fontaine sacrée pour qui ? Je ne saurais le dire.
Voilà, on ne sait pas vraiment. En tout cas, bon, la question que j'allais poser, effectivement, c'est les premières traces de communautés humaines trouvées sur le territoire de la commune. Ben, vous avez répondu. Donc, comme dans un certain nombre de communes de la métropole toulousaine, on en trouve dès le néolithique. Et là, en l'occurrence, c'est une hache.
Oui, hache polie.
Une hache polie. Et puis après, époque gallo-romaine aussi, là, déjà quelques vestiges ont été
retrouvés. Quelques vestiges, mais quelques poteries, rien d'extrêmement...
Pas de bâtiment. Traces visigoths aussi, est-ce qu'il y a des traces ?
Alors, il semblerait qu'un des murs de l'église, qui a été refaite plusieurs fois, soit d'origine visigoth. C'est le mur que l'on trouve en rentrant en face dans l'église. Mais je ne saurais en dire plus.
Ouais, ce serait le seul qui serait arrivé jusqu'à nous, le seul vestige de cette époque qui serait arrivé jusqu'à nous. Alors après, on arrive au Moyen-Âge, bien sûr. Et là, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de faits et d'événements qui méritent qu'on s'y arrête, en tout cas qu'on les relève et qu'on les partage avec nos auditeurs.
Alors, tout commence avec l'Église, hein, puisqu'en fait, dans les communautés, à cette époque-là, effectivement, l'Église était le centre, on va dire, de la vie, si on peut l'exprimer ainsi. Donc l'Église de Quinte apparaît dans le cartulaire de Saint-Sernin, on va dire, au XIe siècle, à peu près. Donc il y a des traces et il y a des événements qui sont parfaitement relatés. Et en fait, la vie rurale va s'organiser autour de cette Église. Alors, dans le vieux cimetière, il a été retrouvé des os, visiblement, de gens du Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on voit ça à partir des dentitions, les dents étaient relativement usées parce qu'on mangeait beaucoup de certaines choses qui étaient dures certainement à l'époque. Ouais. Et donc tout ça a été affecté à des au Moyen-Âge. Ce que l'on retrouve de façon beaucoup plus précise ensuite, c'est au XVIIe siècle, 1600. Légèrement avant, on a tout ce qui relève des capitouls. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Je dresse un portrait jusqu'à nos jours. Donc ensuite, nous avons le compois de 1650, donc sous le règne du roi Soleil, comme je l'ai dit.
Alors expliquez ce qu'est le compois pour que les gens
comprennent. Un compois, c'est le nom donné à un cadastre. On peut l'appeler aussi terrier. L'objet de ce cadastre, c'était d'inventorier les terres de façon assez précise, alors avec les unités de l'époque. Il faut transcrire aujourd'hui, d'identifier les propriétaires, parce que derrière, il y avait effectivement l'impôt. En fait, l'objet, ce n'était pas d'identifier les personnages juste pour des raisons historiques, c'était effectivement principalement la dîme au niveau de Saint-Cernin, puisque la dîme était perçue par les autorités religieuses de Saint-Cernin. Ensuite, nous avons également donc des archives intéressantes jusqu'à la Révolution et jusqu'au début du XXe siècle.
Est-ce qu'il y a eu une seigneurie ou des seigneurs installés sur les terres de Quinte à l'époque ? Éventuellement un château ? Est-ce qu'on sait, parce qu'il n'y en a plus aujourd'hui, ça c'est clair, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose de cet ordre ?
Alors, il existe beaucoup de bâtiments sur la commune de Quinte, enfin beaucoup, on va dire une vingtaine de bâtiments sur la commune de Quinte, donc ce qui est quand même pas mal par rapport à la superficie. La moitié subsiste encore. Et nous avons effectivement, dans les archives, en particulier les annales de Toulouse, des capitouls qui étaient des seigneurs, voire co-seigneurs. C'est visiblement, la justice était répartie. Et on cite, aux alentours de 1500, quatre co-seigneurs de Quinte, de mémoire Jean de la Tour, un Soubiron, un Rouex et un Gavaret. Alors Gavaret, c'est quelqu'un d'intéressant parce qu'il existe un chemin de Garabet. Alors, en ancien français, le V s'écrit comme un B.
Oui,
le
l'orthographe
V s'écrit
a
comme
pu
un
varier
V. Après, y a-t-il
une
inversion ? Mais effectivement, la localisation telle qu'indiquée sur les archives qu'on a pu retrouver semblerait le situer par rapport à ce chemin, ce fameux chemin de Garabet.
Chemin de Garabet. Alors, je dis pas de château, mais en revanche, il y a quand même un certain nombre de bâtisses anciennes. Il y a des moulins aussi sur le territoire de Quinte qui valent aussi le coup d'œil, si on peut dire, et qui valent d'être connus.
Alors, je vais revenir sur l'aspect château, parce qu'effectivement, il y a eu une famille de seigneurs qui s'étale sur deux siècles, les Guibert, donc Capitoul, également avocat à la cour de Toulouse, Capitoul, et qui avait un château à Péchestier. Alors, Péchestier, il faut savoir que pour les pilotes, c'est un point
de repère
très intéressant. Et en fait, ce fameux château de Péchestier, on en a des traces jusqu'en 1824, à peu près. Donc, il existait à cette époque-là. Il a été détruit et a été reconstruit un autre château à proximité, vraisemblablement avec certains matériaux. Mais le château de Péchestier en lui-même a disparu. Alors, ce qui faisait la richesse, on va dire, des communes, c'était effectivement donc l'agriculture, et il fallait des moulins pour moudre le grain. Donc il y avait deux moulins à eau sur la Saône, puisque c'est la rivière principale.
Le cours d'eau principal qui passe sur les terres de Quinte, affluent de l'Erse.
La frontière entre Quinte, Fonsegrive et Saint-Orens, et deux moulins à vent. Aujourd'hui, ne subsiste qu'un seul moulin à eau, que l'on peut toujours voir quand on va de Fonsegrive à Queyras. Quand on passe sur le pont de la Saône, sur la gauche, on voit encore le moulin qui est toujours alimenté par l'eau.
Voilà pour l'Ancien Régime, si on peut dire. On arrive évidemment à la Révolution française. Est-ce qu'il y a des faits et des personnages particuliers qui se sont illustrés à ce moment de l'histoire de France, moment charnière, c'est le moins qu'on puisse dire.
Exactement. Alors, ça me permet de faire la transition entre les seigneurs et la Révolution. Donc, je reviens à la famille Guibert. Le dernier représentant des Guibert, c'est Jean-Louis Guibert, qui était mousquetaire du roi, qui a vendu le château en 1782, je pense. Nous avons un acte notarié. Donc château, justice, etc. Et on retrouve les traces de ce monsieur Guibert comme sénéchal à la maréchaussée de Toulouse, vraisemblablement. Et le pauvre garçon n'a pas eu de chance parce qu'il y a eu une chasse aux sorcières à la Révolution qui ont recherché les parlementaires. Et malheureusement, très peu ont été pris. Il a fait partie de ceux qui ont été pris et il a été exécuté. Il a été monté à Paris. On l'a emmené à Paris. Il a été exécuté en 1793, quelque chose comme ça, le jour même où a été exécuté le poète Chénier. Donc ça marque la transition avec la Révolution. En termes d'archives, nous avons la liste en l'an 5. Nous avons la liste des électeurs potentiels. Alors le plus jeune avait 22 ans, nous avons son nom, le plus vieux avait 70 ans, et il y avait 22 électeurs donc susceptibles de voter en l'an 5. Ensuite, certains Fonsegrivois, alors Quintois plutôt, faut-il dire, certains Quintois ont été emprisonnés sans raison particulière et sont sortis après 10-12 mois d'emprisonnement à Toulouse.
19e siècle, est-ce qu'il y a des événements particuliers durant cette période à Quinte, sachant que ça reste une commune très rurale pendant toute cette période, donc population essentiellement d'agriculteurs, fermiers, agriculteurs?
Permettez-moi de revenir à l'église. Donc, si on reprend l'histoire de l'église, elle a été incendiée par les Huguenots, je pense, vers 1600, je ne sais plus.
Pendant les guerres de religion.
Voilà, pendant les guerres de religion. Et en 1850, a eu lieu un autre incendie. Donc, l'église actuelle ne reflète pas le bâtiment.
Ce qu'elle a pu être à l'origine, bien entendu.
Elle a pu être à l'origine. Donc, en 1800, je pense, 10-15, a été éditée la carte de Cassini. donc commanditée par Louis XV, mais qui a pris quelques années. Hein, c'est la première carte recensant à l'échelle donc de la France. Et donc sur cette carte de Cassini, on identifie très très bien la commune de Quint, Péchestier, les châteaux, etc. Ensuite, il y a un atlas cadastral. Édité en 1824, entièrement réalisé à la main, mais qui est très beau. Esthétiquement, c'est très beau. On peut le consulter aux archives de la commune. Et il y a différentes parties du territoire qui sont présentées de la commune. Une petite anecdote, c'est que si on reprend le nord magnétique, donc les cartes étaient orientées par rapport au nord magnétique, le nord magnétique bougeant, évoluant, et si on superpose une carte d'un satellite aujourd'hui, on a une
oscillation,
une rotation de la carte par rapport à ce nord magnétique. En revanche, le pourtour est exactement le même, et je pense que depuis 1650 jusqu'à nos jours, pratiquement les frontières de la commune
sont restées à peu près identiques. Ouais. Alors, 19e siècle, donc début 20e siècle, première moitié 20e siècle, je crois qu'il y a pas de choses vraiment particulières à signaler, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale. Pas de faits de résistance, en tout cas répertoriés, ni de personnalités qui se sont illustrées durant cette période. Et donc après, on va arriver dans ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, donc l'après-guerre. C'est là que l'abbé Bacravert va beaucoup faire parler de lui, parce que c'est une personnalité très liée à la commune, justement.
Alors, je reviens légèrement en arrière en 1937, parce que c'est la date à laquelle l'école qui était à proximité de l'église a été transférée à Fonsgrive. Et donc là, on a le début, on va dire, de la migration du centre de gravité de Quint, finalement, à Fonsgrive. Alors, l'abbé Bacravert. Donc l'abbé Bacravert, c'est une figure locale. Il a été curé de la paroisse pendant 50 ans, la paroisse Saint-Pierre. Donc ça fait quand même un certain nombre d'années. Et c'est un homme remarquable, qui a eu une vie remarquable et remarquée. Parachutiste, aéronautique, érudit, archéologue, savant. Donc il a étudié en particulier les vestiges gallo-romains. C'est lui qui les a mis à jour.
C'est une de ses grandes passions. Oui.
Il a écrit des livres, Toulouse Terre d'Envol, donc consacré à l'aéronautique. Donc quelqu'un de moderne. Hein,
qui s'intéressait à la fois au passé et au présent.
Quelqu'un d'actuel, et qui avait son franc-parler. Donc si vous me permettez une anecdote, il a participé dans les années 2000 au jeu des 1000 francs. Et il a gagné le banco. Alors la réponse, je crois, c'était turiféraire. Donc ce qui était assez cocasse, parce qu'étant curé, il a pas trouvé tout de suite. Je me souviens, il a un peu hésité. Bon, il a quand même trouvé turiféraire, celui qui en sens. Et on lui a demandé, est-ce que vous tentez le super banco? Et il a dit non, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et je sais de quoi je parle. Donc le garçon avait un langage savoureux. Effectivement, il avait son franc-parler. C'est un caractère, hein, une personnalité. Donc on ne pouvait pas lui faire dire n'importe quoi. Et donc ensuite, il a quitté Quint après 50 ans. Et il a continué à œuvrer au diocèse, je crois. Il a été conservateur du musée
absolument,
catholique.
Mais qui d'ailleurs porte son nom aujourd'hui.
Voilà, encore quelques années, et donc jusqu'à cette année, je crois, en 2007.
Oui, donc c'est quelqu'un qui en plus a une vie longue.
Longue et bien remplie.
Et puis qui a vu tous les changements de cette exactement. France rurale. Quint Fonsgrive, on est un exemple assez typique. Et alors Quint Fonsgrive, aujourd'hui, en tout cas depuis les années 70-80, c'était le début de l'urbanisation et la population qui a considérablement augmenté, si on se faire à ce qu'elle était encore dans les années 60.
On peut dire qu'il y a eu une stabilité de la population depuis 1650 jusqu'en 1960. 300, alors ça oscille, 380, il y a eu deux épisodes de peste, certainement ils ont dû être touchés peut-être aussi. Et donc on a une stabilité remarquable en termes de population par rapport à un habitat rural, donc les gens avaient des fermes et tout. Ça augmente à partir des années 60 et la création des premiers lotissements à Fonsgrive. Et on va passer donc à 2000 et quelques habitants dans les années 80. Aujourd'hui, la population est à peu près 6000 habitants.
Et donc une forte densité au kilomètre carré, densification de la population. Mais tout de même, comme vous l'avez dit en début d'émission, on a préservé des espaces agricoles, des terres agricoles, même quelques espaces encore sauvages, je crois. C'est-à-dire qu'on peut faire des promenades à deux pas de Toulouse.
On peut faire des promenades et il y a certains paysages qui sont remarquables parce qu'effectivement, entre deux vallons, on a vraiment l'impression d'être au pied des Pyrénées et pas du tout à 7 km de Toulouse.
Et puis, il y a la présence d'une zone artisanale, donc aussi une vie économique et donc un certain bassin d'emploi, en tout cas, dans cette commune.
Avec l'arrivée donc de nouveaux habitants, la municipalité a développé une zone artisanale avec... ce sont des artistes, des entreprises assez variées dans tous les domaines. Et récemment est arrivée la nouvelle clinique La Croix du Sud. Donc en termes médicaux, la commune est relativement bien niquée. Il y a cette clinique, la clinique du Sud, et je crois qu'il y a un EHPAD et une clinique de réadaptation, de rééducation.
Voilà, ben nous aurons vraiment traversé l'histoire de Quinfonzerie du néolithique tout de même jusqu'à cette clinique ultramoderne Croix du Sud. Là encore, on voit comment a pu évoluer cette périphérie toulousaine à travers les siècles et cette accélération là des dernières décennies. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment Jean-François Gajewski d'avoir accepté de venir à Métropolez-vous pour vous faire le passeur de l'histoire de Quinfonzerie et de nous avoir fait découvrir aussi le patrimoine de cette commune de l'Est métropolitain. Et bien comme souvent, j'ai appris des choses en vous écoutant et je pense que ça aurait été le cas aussi pour les auditeurs de ce numéro. Je rappelle que vous présidez les Amis de Quinte et que cette association possède un site internet consultable à l'adresse www.lesamisdequinte.fr. Pour ma part, je peux d'ores et déjà annoncer que nous resterons à l'est de la métropole toulousaine lors de notre prochaine émission, puisqu'elle sera consacrée à l'histoire et au patrimoine de la commune de l'Union. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.